Bonsoir. Dans son discours à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État a notamment salué la bravoure des FRDC et annoncé le contrôle total du territoire national par l'armée congolaise. Par ailleurs, il a réaffirmé son engagement à la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales de façon méthodique en évitant toute précipitation. La conférence épiscopale nationale du Congo plaide pour la protection de la nation et met en garde contre toute tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Autour de cette table, Louis-Dor Valekelaï, il est éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Bonsoir Louis-Dor Valekelaï.
Bonsoir Guy Maté, merci.
Innocent Kabukala, coordonnateur de Global TV, une télévision privée émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guy, bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Léon Mouinze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant des Kolwezi au Katanga. Bonsoir Léon Mouinze.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le chef de l'État annonce le contrôle total du territoire national par les FRDC et de leur côté, les évêques s'opposent à toute révision de l'article 220 de la Constitution. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kelly Kouté pour savoir comment la presse a analysé cette actualité.
Bonsoir. À l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Kabila présidait personnellement le tronc droit à Kinshasa, un imposant défilé aux couleurs exclusives des FRDC et de la police nationale congolaise. L'avenir explique que pendant plus d'une heure trente, les Kinois ont admiré sur la place du cinquantenaire des troupes élégamment vêtues, ainsi que des chars des combats, des blindés et autres armes sophistiquées, pendant que les avions de chasse survolaient le ciel de Kinshasa pour la première fois. De son côté, le phare rappelle que conformément à une vieille tradition républicaine, le chef de l'État s'est adressé à la nation le 29 juin 2014, à 24 heures de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Son message s'est articulé autour de cet événement historique. Il a souligné particulièrement la liberté et l'unité comme deux valeurs à préserver absolument par notre peuple. S'agissant des concertations nationales, le phare rappelle que Joseph Kabila a réitéré sa volonté de les couler en acte. La commémoration le 30 juin des 54 ans d'indépendance de la RDC a été l'occasion pour le chef de l'État de remettre les pendules à l'heure sur certaines questions des politiques nationales selon le potentiel. Si pour certains, les résolutions et recommandations issues des concertations nationales s'y conjugueraient déjà au passé, Joseph Kabila n'est pas de cet avis. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation, a promis Joseph Kabila dans les messages qu'il a adressés à la nation. La modification de l'article 220 de la Constitution de la RDC fait réagir les prélats catholiques de la CENCO. Les évêques disent non, titre le Forum des As. En effet, les évêques tapent du poing sur la table et haussent le ton, car hostile à toute tentative de modification de la Constitution, particulièrement en son article 220 qui fixe le nombre de mandats du président de la République. L'avenir rapporte que dans ce message, les évêques de la CENCO ont de prime abord salué les efforts de construction du pays entrepris par le gouvernement et le progrès enregistré par les FRDC et les forces de la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés. Par ailleurs, les évêques ont encouragé la CENI à sauvegarder son indépendance et à demeurer dans l'impartialité et la transparence. Le palmarès, pour sa part, rapporte que l'Église catholique souhaite que l'élection présidentielle prévue pour 2016 en RDC soit l'occasion d'une transition véritablement démocratique et exhorte le président de la République Kabila à s'effacer du pouvoir à cette date. Pour sa part, le potentiel affirme que loin de toute polémique, l'abbé Santédi a fait observer que le message de la CENCO n'est pas un appel à la révolte mais à la prise des consciences.
Merci Kelly Kouté, Louis-Dor Valekelaï, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. L'actualité c'est aussi cette note que vient d'obtenir la RDC à Mexico, Mexique. Elle vient d'être déclarée pays conforme à l'ITIEA, initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Oui, tout à fait. Il va falloir noter tout de suite à l'intention des auditeurs que c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. C'est un processus qui tire, qui plonge ses racines, je voulais dire, vers les années 2003. Là, nous étions encore à l'époque de 1 plus 4, lorsque la République démocratique du Congo, ayant constaté que le multinational qui venait investir en République démocratique du Congo s'adonnait à une sorte d'épiage systématique de ressources naturelles, il fallait s'insérer dans la logique de cette initiative pour pouvoir, n'est-ce pas, voir ce que les entreprises minières déclarent et ce que l'État reconnaît est conforme, n'est-ce pas, aux principes, et je voulais dire aux fondamentaux même de cette initiative. Et c'est en 2005 seulement...
C'est ce que vous payez, c'est ça le principe
fondamental.
Voilà,
justement, c'est ça le principe, voilà. Et c'est en 2005, disais-je, que la République démocratique du Congo a levé finalement l'option d'adhérer à cette initiative. Mais il va falloir dire que ce qui vient de se passer récemment à Mexico est un ensemble d'efforts conjugués. En tout cas, quand quelque chose de bien est fait, il faut le reconnaître. Et moi, je parle ici en tant qu'analyste, en tant que scientifique. Il faut reconnaître la détermination et l'implication du gouvernement actuel en place, notamment avec son premier ministre, mais aussi l'implication de la société civile et de la Fédération des entreprises du Congo FEC, qui sont les trois composantes majeures qui se sont impliquées pour la réussite de ce processus, avec notamment les ministères clés, comme le ministère du Plan, le ministère des Mines et même celui des Hydrocarbures, pour pouvoir permettre à la République démocratique du Congo d'être déclarée aujourd'hui conforme à cette initiative. Et ceci donne quand même une crédibilité à la République démocratique du Congo en termes d'appel d'offres à effectuer envers les investisseurs qui peuvent venir avec toutes les garanties jeter leurs capitaux en République démocratique du Congo pour booster l'économie.
Merci Innocent Kavukala, coordonnateur de Global TV, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, avec cette bonne note que vient d'obtenir de la RDC. Ce pays fait désormais partie du cercle restreint des 29 pays du monde, ayant connu une évolution positive dans la transparence des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières et pétrolières.
Oui, c'est bien dit, hein. Ludor a expliqué toute la théorie autour de cela et que c'est très bien. Mais alors, quand même, une petite inquiétude, c'est que tout cela, quand on est conforme, mais il faudrait aussi penser à une chose, c'est que ce n'était pas seulement pour la consommation extérieure, donc au niveau international, mais il faudrait que cela se ressente aussi au niveau interne. Ici, je voudrais insister sur la possibilité qu'on devrait aussi donner aux nationaux, parce que qui viennent dans ces secteurs-là des mines. Pour la plupart des cas, ce sont des expatriés. Et au niveau local, on ne voit presque personne. Simplement parce que des lois sont quand même assez dures à ce niveau-là. Je vais donner un exemple dans le domaine d'importation des explosifs, par exemple. Vous voyez que il y a une loi. À l'époque, il y avait une société qui pratiquement n'a plus la force nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là, mais qui continuait à détenir le monopole dans le secteur, alors que maintenant, il y a des privés qui sont beaucoup plus intéressés, mais il n'y a pas une facilité. Il n'y a pas une facilité parce que il n'y a pas une loi qui libéraliserait, hein, clairement le secteur, de sorte que certaines autres personnes arrivent, notamment les Congolais, parce que l'objectif, à la fin, quand on est bien coté au niveau international, mais il faudrait qu'au niveau interne, qu'on trouve quand même une classe moyenne en bonne santé, et notamment dans le secteur, parce qu'il y en a quand même des gens qui sont intéressés dans le secteur, et donc c'est très important.
Merci Léon Moinze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant des Kolezo Katanga. Les nationaux, selon Innocent Kavukala, devraient avoir des facilité, n'est-ce pas, pour leur permettre d'investir dans ces secteurs.
Oui, mais c'est très important parce que souvent les nationaux se sont oubliés. Il faudrait que, à l'issue de cette déclaration que nous saluons, hein, la déclaration de Mexico, où on a déclaré la RDC comme pays aussi conforme, donc il faudrait aussi qu'on puisse aider aussi les nationaux. Je voudrais rappeler aussi que c'était un progrès important pour la RDC, que l'on doit maintenant compter sur les 29 pays, hein, dans ces secteurs de revenus d'exploitation. En fait, les rapports de 2011 démontrent clairement, hein, que sur 83 entreprises dans les périmètres et les secteurs des mines, il y a eu 9 entreprises publiques, 33 en production et 41 en exploration. Mais ce que je voudrais souligner ce matin, nous saluons bien entendu les efforts de la RDC dans ce secteur des rituels, mais il faut que le niveau de la population congolaise soit relevé, parce que nous sommes sur des ressources, mais il faut que les retombées soient aussi visibles dans la population.
Merci, notre premier thème de ce soir, dans son discours à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État a notamment salué la bravoure des FRDC et annoncé le contrôle total du territoire national par l'armée congolaise. Par ailleurs, il a réaffirmé son engagement à la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales de façon méthodique en évitant toute précipitation. Le président de la République, Joseph Kabila, a placé la fête de l'indépendance sous le signe d'un hommage que le pays doit aux forces armées de la RDC. Dans son discours prononcé dimanche 29 juin à la veille de la célébration du 54e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, Joseph Kabila a expliqué que cet hommage vibrant et solennel aux militaires est mérité suite à toutes les victoires qu'ils ont enregistrées sur toutes les forces négatives. Il a également assuré que le FRDC contrôle tous les territoires nationaux. On écoute Joseph Kabila.
Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. J'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général et convenu en conséquence des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises, de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation.
Louis-Dor Balekela, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Le chef de l'État a salué la bravoure des FRDC. Je crois que le moment était arrivé, n'est-ce pas, de reconnaître officiellement les sacrifices consentis par nos voyants militaires pour débarrasser le pays de certaines forces négatives. Et le chef de l'État a profité de cette occasion pour annoncer le contrôle total du territoire national par l'armée congolaise.
Bien, Guy Maté, merci. Je crois que c'était l'occasion propice pour le président de la République de montrer à quoi ressemblait cette expression consacrée dans le langage militaire, la montée en puissance des FRDC. Peut-être que la population, notre population, les fils et les filles de notre peuple entendaient parler de la montée en puissance des FRDC sans savoir à quoi ça ressemblait. Il fallait donc organiser ce défilé essentiellement militaire, comme on a pu le voir, pour rassurer la population quant à la détermination du gouvernement, mais aussi du président de la République, en tant que chef de l'État garant des institutions et de l'intégrité du territoire national, que tout est mis en œuvre pour sécuriser les frontières héritées de la colonisation. Et je crois que les engins militaires qui ont été présentés, pour d'aucuns, c'était un défi, c'était pour démontrer à quiconque qu'une fois osé, on répliquerait. Moi, je crois que ce n'était pas ça d'abord essentiellement.
C'est une démonstration de force.
Une démonstration de force, comme d'aucuns ont semblé le dire abusivement. Mais je ne concède pas cette expression parce que l'essentiel était de montrer effectivement, d'ailleurs, d'après nos sources, les armes qui ont été montrées à la population n'ont été qu'un échantillon parce que chaque province, sur les 11 provinces que nous avons, a son armement. Et donc là, c'était juste un échantillon pour dire que l'État a consenti des efforts pour équiper l'armée, pour moderniser l'armée, et ceci ne peut que faire la fierté, d'autant plus que nous avons été habitués pendant deux décennies durant à voir des armées étrangères, des groupes armés étrangers et même nationaux faire des promenades de santé sur notre sol pour s'adonner au pillage des ressources naturelles, pour multiplier les veuves et les orphelins sur le sol de nos ancêtres en tuant, en violant, et maintenant c'est une prise de conscience collective qui va devoir saluer et exhorter toute notre population à être derrière cette action pour pouvoir justement assurer l'intégrité du territoire national, car l'avenir de nos enfants, de nos arrières et arrière-petits-fils en dépend de l'une ou de l'autre façon.
Inosa Kabukala, coordonnateur de Global TV, une télévision privée mettant depuis Kinshasa. Vous avez suivi Louis-Dor Balekela, et quand on se rappelle que des territoires entiers ont échappé pendant longtemps au contrôle du gouvernement central et que l'on apprend aujourd'hui que les forces armées contrôlent la totalité du territoire national, n'est-ce pas des grandes nouvelles contenues dans ces messages, un des temps forts, n'est-ce pas, du message du chef de l'État?
Malheureusement, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis-là, parce que je me dis que à défiler, bon, je ne voudrais pas quand même manquer de respect envers nos voyants et FRDC. C'est vrai, nous devons le soutenir dans cet effort-là. Mais on sait quand même ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et donc, je ne voudrais pas, dans mon analyse, tomber dans ce piège de penser que ce défilé était une manière de reconnaître nécessairement l'unique implication des seuls FARDC. On sait ce qui s'est passé réellement pour en arriver à la fin de cette guerre.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, on le sait, on sait que il y a eu l'appui non négligeable des partenaires au niveau donc de la CIRGN, mais également la brigade qui est intervenue. Et donc on sait que ce sont des forces étrangères qui ont plus contribué. On connaît quand même la capacité que nous avons. Je ne doute pas la possibilité de le faire pour les FARDC, mais on sait comment ça s'est passé pour en arriver à cette fin de guerre. Et donc, leur organiser ce défilé dans le sens, moi j'ai plutôt une autre lecture. J'ai comme l'impression qu'on voudrait nous amener à penser que nous sommes non loin des échéances. Hein. C'est une vérité. Et donc, un peu une manière d'intimider cette population-là pour voir ces chars. Parce qu'on se pose la question, mais lorsque ça bardait à l'Est, est-ce que ces chars-là, ils étaient où? On les a vus seulement ces jours-là, et d'ailleurs, pour la plupart des cas, parce que on a comme l'impression que, pour certaines personnes, tout qu'on aurait acheté depuis peu, mais quand on a vu ces chars, bon, on sent que ça date de très longtemps, parce que certains d'entre eux fumaient déjà. Et donc, on ne peut pas dire que il n'y en avait pas. Il y en avait donc, mais seulement, il s'est passé autre chose qui n'a pas permis qu'on en arrive à la fin de cette guerre, et par conséquent, je ne pense pas que ce défilé-là lui donnait cette allure-là, mais plutôt, dire que nous sommes à 54 ans de notre indépendance, organiser un défilé pour cette population qui a tant souffert et qui estime que maintenant qu'il y a la paix, elle a droit à aspirer à de bonnes choses. Ce serait ce défilé-là. Pourquoi pas organiser une fête nationale? Parce que vous conviendrez avec moi que à quelques heures du début de ces défilés-là, à la fin, parce qu'on a dit que c'était exclusivement militaire, mais puis on a dit que bon, pour le reste des provinces, par exemple, les partis politiques pouvaient aussi faire la même chose.
Mais dans le message du chef de l'État à l'occasion de cet anniversaire, il a annoncé une grande nouvelle, hein, que la FARDC contrôle la totalité des territoires nationaux.
Mais de façon précaire, il faut le préciser, hein, de façon précaire, parce que en fait, ici. Il y a eu des consignes pour que cette guerre-là cesse, et donc on peut voir la présence des éléments des FARDC sur les territoires jadis occupés. Mais cela ne veut pas dire que on est dans une paix totale. Donc je le dis, j'insiste, c'est une paix qui est encore précaire. Hein. Je crois que c'est cela. Donc moi je pense que on aurait pu plutôt organiser ce défilé. À la fois, bien sûr, les FARDC font partie de la population de manière. Alors une fête totale, une fête au niveau national. Pour cette population qui a enduré, qui a supporté quand même cette guerre, il était normal que cette population puisse jouir. Bon, on a fait quelques interviews, hein. On a vu que la population n'était pas là, dans ce défilé-là, ça ne le concernait même pas.
Merci, Lidor, un moment, oui.
Tout à fait, je voudrais placer un petit mot pour que nos auditeurs ne soient pas induits en erreur par la logomachie de mon estimé confrère de tout à l'heure, qui estime que ce défilé avait pour but d'intimider la population en lui présentant des armes. Je crois que c'est pas ça. On ne peut pas utiliser des armes comme celle-là contre la population, même quand il s'agit de manifestations non autorisées. Ça ne s'est jamais passé, c'est inimaginable. Donc je ne pense pas qu'on puisse présenter les choses ainsi à notre population. En plus, le confrère dit où étaient les chars lorsqu'il y avait la guerre à l'Est. Je crois que un minimum de connaissances de l'histoire de notre pays, notamment les deux dernières décennies, avec ce qu'on a connu comme embargo, il est impossible à la République démocratique du Congo d'acheter des armes. Merci. Au moment où le Rwanda, qui l'agressait, achetait des armes. Donc, ce sont des éléments qui se lient et qu'il faut vraiment racoler pour faire une analyse, une approche globale et globalisante, totale et totalisante de la question de l'Est du pays.
Merci Ludor. Léon Moinze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre, émettant des colos au Katanga. Et au moment où l'on apprend que les Bakata Katanga au Katanga, les Maïmaï Akutumba au sud Kivu et les Maïmaï Tcheka au nord Kivu continuent à sévir, n'est-ce pas, et à occuper certaines localités, que l'annonce du chef de l'État est faite, est-ce que c'est une façon de minimiser l'activisme de ces Maïmaï ou tout simplement un discours politique comme le disent certains analystes?
En fait, je pense que 54 ans après notre indépendance, c'est un âge de maturité. En mon sens, à ma connaissance, en fait, il fallait que le gouvernement, le président de la République puisse faire cette démonstration parce que il n'y a pas longtemps que l'on décriait la faiblesse au sein de l'armée, mais il fallait quand même qu'on puisse faire une démonstration. Mais totalement, la République du Congo, ces espaces maintenant sont perméables, mais néanmoins, il y a quelques poches de résistance, comme vous l'avez cité là, les Maïmaï, les ADF Nalu et d'autres groupes armés qu'on doit quand même éradiquer sur tous les territoires congolais.
Oui, Innocent Kabukala, vous avez suivi Ludor Balekelaï, ce n'est pas avec ces genres d'armes qu'on peut intimider la population, parce qu'on ne va pas utiliser ces genres d'armes contre la population civile qui n'ont pas d'armes, qui sont désarmées.
La juridique qui dit que lorsqu'il y a des manifestations non autorisées, on fait usage de la force, c'est ça le plus important. Donc le problème, ce n'est pas qu'on viendrait avec ces chars, mais c'est pour dire qu'on est là.
Voilà.
Simplement qu'on est là et que, puisqu'on est là, et donc... attention, nous allons vers ces échéances, on apprend bien des choses, il y a des gens, il y a beaucoup de mécontentement, et puis on sait que il y a toute cette question autour de révision de la Constitution, pour quel but, et est-ce que 2016, comment ça va se passer, et toutes ces inquiétudes. Alors il faut anticiper, il faut anticiper, et donc de cette manière-là, alors donc on se dit que, mais attends, nous y allons. Mais on sait aussi, hein, on a eu le qu'on appelle de navettes, de tous ces experts des envoyés spéciaux. On a entendu leur discours. Alors, et vous pensez que le faire,
je ne pense pas. Prenons l'aspect contrôle du territoire national. Oui. En annonçant le contrôle total du territoire national par la FRDC, les chefs d'État banalisent l'action des groupes armés qui sont en train actuellement de sévir dans certaines localités. Ou peut-être qu'il mesure les dangers, n'est-ce pas, qu'il représente ces Maïmaï, mais parce qu'il faut rassurer, il fait cette annonce, un discours politique.
Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure que le contrôle, le mot tel qu'il a été annoncé, je n'ai rien contre le chef de l'État. Le mot tel qu'il a été annoncé, je pense qu'il s'agit d'un contrôle précaire. Et la précarité, parce que je sais qu'il y a quand même ces poches de résistance qui ne rassurent pas du tout. Mais alors, puisqu'on avait envie de faire quelque chose pour pouvoir démontrer qu'on a fait le travail, et ça, c'est un calcul de politique par rapport aux échéances qui arrivent. Et donc, il faut rassurer, il faut dire aux gens que nous sommes en paix. Et voilà des bonnes raisons de pouvoir peut-être continuer à être là. Et donc, c'est des possibilités. Donc, c'est un discours, ni plus ni moins, plus politique par rapport à la réalité sur notre territoire.
Ludor Balekelaï, Joseph Kabila a réitéré son engagement à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de la concertation nationale. Il dit de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. Et là, apparemment, il fait allusion notamment au gouvernement de cohésion nationale, dont la mise en place avait été annoncée au mois d'octobre dernier.
Tout à fait. Avec votre permission, Guy Maté, avant d'en arriver là, je voulais placer un petit mot par rapport à ce que mon éminent confrère Innocent a dit tout à l'heure, en rapport avec le contrôle qu'il estime précaire à l'Est. C'est bien vrai de le dire, mais n'oublions pas, je lui rappelle toujours d'avoir tous les éléments en ce qui concerne la situation de l'Est, les groupes armés étrangers ou nationaux de l'Est ont reçu un ultimatum de déposer volontairement les armes. Et l'ultimatum court encore, aussi bien pour les FDLR que pour les groupes nationaux, les Maïmaï et tous les autres. Et donc, le processus continue et on ne peut pas, à cette étape, dire que c'est un discours politique, le contrôle est précaire. Quand le président de la République, qui est le chef des armées, dit des choses comme ça, j'espère qu'il a pris la mesure de la chose pour pouvoir annoncer cela à la population. Pour revenir maintenant à la question de la mise en œuvre de recommandations des concertations nationales, en tout cas, je serais menteur si je disais ici que le temps pris n'a pas inquiété surtout ceux qui sont concernés, ceux qui ont pris part aux concertations nationales et qui voient les cheveux blancs pousser au jour le jour. Les jours passent, c'est tout à fait normal qu'ils soient inquiets et qu'ils expriment leur inquiétude. Mais le président de la République, en abordant cette question en marge du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, a compris que c'est un problème dans la société et qu'il faut y apporter une solution. Je crois qu'aujourd'hui, si le président de la République met sur pied un gouvernement dans la précipitation et que les acteurs, les membres de ce gouvernement sont contestés, je crois que même la cohésion nationale qui est visée ne sera pas réalisée de manière effective.
Il y a un député, il est même membre de la majorité présidentielle, le député Thomas Lokondo,
qui a fait un point de presse là-dessus.
Il estime que l'administration congolaise est paralysée dans l'attente des gouvernements, des cohésions nationales.
C'est un compatriote, il a émis une réflexion. On ne peut pas interdire une réflexion à un compatriote. Merci. Je crois que ça rejoint de l'une ou l'autre façon ce que j'ai dit quelque part, mais je ne saurais pas entrer dans le concept de paralysie parce que je ne sais pas à quoi il fait allusion lorsqu'il parle de la paralysie. Mais je voudrais dire quelque chose. Je donne un cas en ce qui concerne le retard. Regardez ce qui se passe au sein de notre opposition. Il y a plusieurs têtes, plusieurs branches de l'opposition. Suppose, vous voyez ce qui se passe entre Olengankoy et Kengo Wadondo. Supposons qu'aujourd'hui, qu'on prenne l'un ou l'autre. Il sera contesté par une autre partie de l'opposition et ça va bouger les choses. Il faudrait donc que la classe politique
en annonçant au mois d'octobre dernier, oui, en annonçant la mise en place de ces gouvernements pour bientôt, c'est ça les termes qui avaient été utilisés par le chef de l'État à l'époque, pour bientôt, et d'un gouvernement de cohésion nationale, certainement qu'il avait la connaissance de toutes ces réalités-là.
Oui, je sais que le président de la République a utilisé pour bientôt, mais pour bientôt, c'est combien de temps? Je ne saurais pas vous poser
Léon Mondé, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ces discours. Hein. Il y a même le député Martin Fayoulou qui affirme que Joseph Kabila a raté l'occasion de dire qu'il ne va pas modifier la Constitution pour rester au pouvoir après son deuxième mandat.
Oui, en ce qui concerne les travaux de la concertation, bientôt ce sera, nous allons célébrer peut-être son premier anniversaire, parce que c'était le 7 septembre que les travaux ont été ouverts et le 5 octobre, le président l'a clôturé. J'aimais lorsqu'il a parlé de la précipitation. Vous savez, aujourd'hui, les pays éprouvent d'énormes problèmes parce que, tout simplement, il y a eu précipitation, anomalie, les gens, tout ça. Je voulais dire ici que la prudence aussi oblige. Mais les temps passent parce que, d'ici là, nous avons dit que les concertations vont totaliser bientôt un an. Le problème, c'est quoi? Les ressources humaines. Parce que parfois, nous les cherchons toujours à Kinshasa. Non, les ressources humaines se trouvent aussi à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, pour avoir un poste dans le gouvernement ou le juge, il faut que vous soyez d'un parti politique. C'est le problème. Moi, je crois que le président peut aller sans précipitation.
Oui, Léon Mondé, au sujet, n'est-ce pas, de tout ce qui a été fait comme annonce dans les discours du chef de l'État, il y a des gens qui disent que il y a des choses qui étaient attendues mais qui n'ont pas été annoncées par le chef de l'État. J'ai évoqué le cas des députés de l'opposition, Martin Fayoulou, qui dit que Kabila a raté l'occasion de dire qu'il ne va pas modifier la Constitution pour rester au pouvoir après son deuxième mandat.
Vous savez, ça c'est aussi un discours, c'est presque un leitmotiv dans toutes les lèvres de Congolais. Moi, je crois que nous ne sommes pas encore en 2016. Bon, c'est un discours, vous avez parlé bien, c'est un discours de l'opposition, mais j'aimerais que cela ne puisse pas se concrétiser. Autrefois, j'ai dit que lorsqu'il y a l'opposition, il y a la majorité, toutes les deux parties doivent travailler ensemble. Et malheureusement, ici chez nous, lorsqu'on parle de la majorité présidentielle, on sent qu'on voulait étouffer les autres et l'opposition aussi ne peuvent pas aller du côté de la majorité. Donc, nous devons travailler pour le bien-être de notre population. Et vous savez, lorsque vous retournez à l'intérieur du pays, vraiment, vous sentez que les gens souffrent et que nous ne pouvons pas nous bagarrer et aussi longtemps que il y a un défi à relever, c'est relever le niveau de la population qui est vraiment en dessous de la moyenne.
Inoussa Kaboukala, le chef d'État, selon Martin Fayoulou, devait annoncer qu'il n'allait pas modifier la Constitution. Vous pensez que le cadre était approprié?
Non, mais Martin Fayoulou, c'est normal, parce que par rapport à sa position, c'est tout ce qu'il peut espérer. Hein, naturellement, à cette occasion-là, il réfléchit un peu à la Poutine, ou on dirait plutôt à, je crois qu'à Yeltsin, non, si je me trompe, et qui devait donner un cadeau à l'occasion d'une fête nationale là chez eux. Donc lui, il espérait plutôt que le président le dise. Mais le plus important ici, pour revenir à la question que vous avez posée à mon confrère Ludor, mais le problème du gouvernement, il a parlé de cette dichotomie au niveau de l'opposition, ceux qui se contestent mutuellement. Mais non, le problème, le mot contestation devait être appliqué d'abord au niveau de la convocation des concertations nationales. C'est là qu'il y avait la contestation. Et cette contestation est allée jusqu'au niveau des membres des partis qui ont pris part à ces concertations-là. Donc les concertations ont été contestées. Vous avez compris que tout de suite, il y avait des termes qui étaient utilisés, notamment la majorité requalifiée, et ça n'a pas plu. Et ce qui a fait qu'il y a des gens qui ont estimé qu'on était en train de tuer la démocratie. Et il s'est posé, à partir de ce moment-là, un problème. Et donc, aujourd'hui, l'opposition qui est partie aux concertations ne veut pas perdre son statut d'opposition. Alors que sur terrain, c'est déjà consommé. La population a compris que s'il y a une opposition, c'est celle qui n'a rien à voir avec les concertations. Vous comprenez? Alors ça fait déjà un problème. Et donc le président de la République devient quelque peu malaisé parce que en fait, lorsque vous lisez les 600, je crois que 99 ou 79 recommandations des concertations, vous verrez que là-dedans, nulle part, on n'a pas vidé de façon claire la question de 2016. Or, une bonne partie de l'opposition voudrait qu'en 2016, qu'il y ait l'alternance. Or, cette question-là n'a pas été vidée complètement et par conséquent, la vraie majorité au pouvoir, voudrait bien, aimerait bien voir que cette question soit vraiment résolue pour pouvoir s'engager. Donc maintenant, si on crée un gouvernement, mais pourquoi en faire? Pour quel bénéfice?
Merci. Notre dernier thème de ce soir, la conférence épiscopale nationale du Congo plaide pour la protection de la nation et met en garde contre toute tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. La conférence épiscopale nationale du Congo salue tous les efforts de reconstruction du pays entrepris par le gouvernement congolais. Dans un message publié mardi dernier à Kinshasa, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance, les évêques de l'Église catholique du Congo ont plaidé pour la protection de la nation et ont mis en garde contre toute tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. Pour le secrétaire général de la CENCO, les évêques recommandent à toutes les parties prenantes au processus électoral de prendre toutes les dispositions pour consolider la démocratie en RDC. On écoute l'abbé Léonard Santedi au micro de Michel Kifindangoy.
Pour un processus électoral apaisé et porteur d'avenir meilleur, l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo invite les acteurs politiques congolais à s'appliquer avant tout à la réalisation d'un consensus aussi large que possible. Aussi, la CENCO recommande au gouvernement de la République de garantir aux parties prenantes un environnement électoral serein et harmonieux, de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources matérielles et financières afin de garantir la tenue effective des élections dans le respect du délai constitutionnel au Parlement, de s'abstenir de voter des modifications constitutionnelles susceptibles de rompre des valeurs fondamentales acceptées par l'ensemble du peuple à la CENI, de respecter les exigences du cycle électoral, les lois et réglementations essentielles au processus électoral.
Ludor Balekelaï, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Et comment vous analysez les messages des évêques catholiques?
Bon, je sais que il y a un document conciliaire, Gaudium et Spes, qui dit « Les joies et les peines, les angoisses et les tristesses des hommes de ces temps sont aussi celles de l'Église, catholique bien entendu. » Et c'est cela qui donne, cette doctrine sociale qui donne à l'Église catholique le pouvoir de donner des conseils aux acteurs politiques d'intervenir lorsqu'il y a une certaine injustice qui s'installe dans la société ou de prendre position face à telle ou autre question qui se pose au sein de la société. Ça, c'est normal que les évêques se prononcent sur la situation du pays. C'est aussi normal parce que ce sont les princes de l'Église. Ils peuvent donner des conseils aux acteurs politiques lorsqu'il y a un problème qui peut mettre à mal l'unité nationale. Mais je note que dans la démarche en cours de nos évêques, que je respecte m'intéresse beaucoup. D'abord, j'ai la déclaration avec moi. Le cardinal de la RDC, Laurent Mosengo, n'a pas signé cette déclaration, ce qui pose déjà un problème, que même les évêques à leur niveau étaient divisés quant au contenu essentiel de ce message. En plus, je me réalise, en parcourant scrupuleusement cette déclaration, que les évêques, nos pères, nos princes de l'Église, au lieu de donner des conseils aux acteurs politiques de toutes les tendances en présence, notamment l'opposition et la majorité, en ce qui concerne des questions électorales, ils prennent en quelque sorte position lorsqu'ils estiment qu'il y a des tentatives pour modifier certains articles intangibles de la Constitution et qu'ils appellent par voie de conséquence aussi bien les députés, la population que leurs fidèles catholiques à être vigilants et à faire donc échec à ce genre d'initiative. Là, c'est déjà une sorte de prise de position partisane. Il cesse d'être l'Église au milieu du village. La question qui se pose ici met en présence l'opposition et la majorité. Ils pouvaient formuler des recommandations aussi bien à la majorité qu'à l'opposition, au lieu de tomber dans le piège de ce que l'opposition avait déjà commencé à faire comme prophétisme, je l'ai dit dans l'émission passée, comme mon éminent confrère a semblé le faire tout à l'heure, ce procès d'intention éternelle qu'on voit dans le chef de l'opposition, à tort ou à raison, parce que du point de vue scientifique, le prophétisme n'a pas de fond, n'est pas basé sur des faits observables. Merci. Sur base de quoi peut-on dire aujourd'hui que M. Kabila a l'intention de se représenter en 2016, alors que nous sommes encore en 2014? Sur base de quoi peut-on dire aujourd'hui que la majorité au pouvoir a des velléités de toucher à certains articles intangibles de la Constitution? On n'a pas encore des faits palpables, observables, du point de vue scientifique, ne fût-ce que pour étayer l'argumentation. Mais sur base de la suspicion des procès d'intention, on alimente vraiment une question qui peut, à un certain moment, opposer les fils et les filles de notre société au lieu de les réconcilier. Je crois que sur ce point-là, les évêques, au lieu de donner des conseils, ont pris position. Et malheureusement, c'est une position qui coïncide avec celle de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle la majorité, dont je ne suis pas le porte-parole, moi j'ai fait mon analyse, estime que l'Église catholique n'a pas été vraiment une Église au milieu du village, a pris position en ce qui concerne le processus électoral. Merci. Et là, ça devient dangereux parce que au sein des fidèles, il y a aussi des politiciens qui appartiennent aussi bien à l'opposition qu'à la majorité. Et une telle prise de position peut entraîner beaucoup de conflits sur le plan social.
Voilà, Léon Mouinze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant des Collèges au Katanga. Vous avez suivi Ludor qui estime qu'il n'y a pas d'effet palpable, il n'y a pas d'élément qui fait croire à l'opinion que la majorité a comme intention de réviser les articles intangibles comme l'article 220. Alors, comment vous comprenez le message de la CENCO?
Le message de la CENCO est tout à fait clair. Bon, j'estime qu'ils ont agi en toute indépendance. Vous savez, les hommes de Dieu ont rempli leur mission. C'est presque un témoin, une sonnette d'alarme pour éviter tout débordement. Mais alors, moi, je me pose quand même des questions en ce qui concerne l'engagement au processus électoral et à l'éducation civique. J'estime qu'il y a un ministère qui s'occupe de la citoyenneté. En fait, moi, je me demande maintenant quel sera le rôle de l'Église. Est-ce qu'elle va-t-elle travailler en collaboration avec ce ministère dans le cadre de l'éducation à la masse? Les enjeux sont détaillés dans notre pays et qui nécessitent à ce que les hommes de Dieu puissent intervenir, puissent s'impliquer. Mais l'Église est en dehors des institutions fortes, telles que les parlements, les sénats, même les gouvernements. Alors, par quel moyen l'Église pourra s'impliquer? Par exemple, au cas où il y aura des verrouillages de l'article 220, mais les messages de ces faits que bon, nous saluons, mais peut-être surtout des garde-fous. parce qu'on a vécu très longtemps dans ce pays avec des messages de cette manière. Toutefois, il y a eu beaucoup de débordements et la CENCO ou d'autres chrétiens n'ont pas eu un moyen pour arriver à contraindre ou à bloquer une situation quelconque. Voilà à peu près ce que je me pose comme question en ce qui concerne la déclaration des hommes de Dieu.
Merci Innocent Kaboukala, coordonnateur de Global TV, une télévision privée qui est émise depuis Kinshasa. Il faut reconnaître que ce n'est pas le premier message qui va dans ce sens. Hein. La société civile a abondé dans le même sens. Il y a aussi l'opposition qui défend la même position. Comment vous expliquez toutes ces réactions qui ont un point commun, non à la révision de la Constitution et surtout l'article 220, et lorsque il n'y a pas des faits qui attestent que les articles verrouillés seront modifiés comme on l'a relevé Louis-Dor Balekelaï.
Mais non, il y a des faits.
Il y a peu.
Le gouvernement avait pris l'initiative de réviser quelques articles de la Constitution.
Le cadre légal qui régit les élections.
Bien entendu. Bien que cette initiative du gouvernement n'a pas eu le Parlement retenir, inscrire ça pour que l'on en débatte. Malheureusement, c'était en fin de la session ici. Et d'après certaines sources que nous avons interrogées, parce que nous les joignons, c'est vrai, avec des sources. Et donc, et on serait même en voie de retirer cette initiative. Mais pour quelle raison? Parce que simplement, on a constaté que l'opinion pèse, il y a beaucoup de pesanteur à ce sujet et qu'il est difficile de faire avaler des gens ces genres de choses parce qu'on sait, on connaît la position catégorique.
Et donc vous voulez dire que la majorité présidentielle chercherait à toucher à ces articles intangibles de façon subtile.
Mais bien entendu. Bien entendu, écoutez, lorsque nous parlons de l'initiative qui avait été prise au niveau du gouvernement, nous avons le gouvernement lui-même, le président de la République, en tant qu'individu et comme institution. Ils font tous partie du gouvernement. À partir du moment qu'il y a eu une initiative qui a été prise au niveau du gouvernement dans l'idée de réviser certains articles de la Constitution de manière à les... Parce que, comme l'expliquait Lambert Mende à l'époque, pour essayer de rester dans la conformité par rapport
à l'évolution de la
situation. Mais ça le dit clairement. Donc, c'est de manière expresse que cela a été fait. Donc, on sait que où est-ce qu'on pouvait aller quand on connaît les calculs des politiciens. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui fait la communauté de tous ces messages depuis toujours? Mais écoutez, il n'y a pas mieux organisé que l'Église catholique, qui est d'ailleurs beaucoup plus représentée ici dans notre pays, mais également la société civile. Ils ont la possibilité de percevoir l'opinion de la population, parce que tous les fidèles, quand ils viennent, c'est un indépendant, et ils sont libres d'esprit. Lorsqu'on réunit par exemple des jeunes, il y a des questions comme ça que l'on pose, et on retient l'essentiel. Maintenant, quand Louis-Dor dit que la signature de Monsengo, mais là n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est le fond du message. Parce que ici, c'est que le message émane d'une opinion que l'Église catholique a la possibilité de détecter dans la population et amène ce message à la place publique de manière à ce que les gens comprennent pour la énième fois. Je rappelle ici, Laurent Monsengo Pasignan, son éminence, il avait dit à l'époque qui n'était pas d'accord pour cette révision de la Constitution d'alors, alors que nous étions à quelques moments des élections de 2011, qui devaient donner un président élu, non pas avec le plus grand nombre de voix, mais plutôt un président qui serait élu avec quelques voix seulement, et dont la polémique serait la contestation dans l'arrêt. On n'a pas écouté, mais on est arrivé aujourd'hui, toutes ces contestations. Pourquoi on est arrivé à ces concertations? C'est la même chose, parce qu'on a compris qu'on était en train d'aller tout droit vers le mur, mais quand même, on essaie de faire la sourde oreille, hein, comme d'habitude, les politiciens aiment bien le faire. Donc c'est la vérité, il y a un problème réel dans ce pays. Il faut qu'on en arrive, c'est pour ça que moi je soutiens ceux qui pensent que maintenant il faut retourner dans l'accord cadre d'Addis Abeba où on aurait un dialogue réel qui pourrait effectivement résorber l'ensemble de toutes ces questions.
Merci,
parce qu'on s'est rendu compte de cela.
Un mot en guise de conclusion.
Si, je voudrais corriger quelque chose pour dire que ce que les évêques a dit, je l'ai souligné tout à l'heure, fait partie de l'expression comme valeur démocratique reconnue. Mais c'est un avis, mais ce n'est pas une loi. Merci. Encore moins la CENCO n'est pas une institution pour légiférer. C'est un avis, un conseil donné, mais le malheur c'est que c'est un conseil qui va dans le sens d'un camp politique et là, ça crée un déséquilibre au sein de l'Union.
Mais
quand
c'est
on preuve, quand
merci,
on preuve de vérité des réponses, de révision de la Constitution, l'ami n'en a pas.
Nous,
on a
voté
une loi dans ce gouvernement,
ça
doit être débattu au Parlement, ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas au niveau de la
CENCO. Merci à Bob Landou qui était à la technique et qu'elle écoutait la réalisation sous la supervision des Pélé qui fait la Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.